France Culture, sans oser le demander, Géraldine Mosna-Savoie.
En général, ça se passe à l'adolescence. Il y a forcément eu un soir ou une après-midi où un de vos amis vous l'a proposé. Oui, la fameuse séance de spiritisme, celle où cinq collégiens, un peu désœuvrés, un peu gauches mais fascinés, se mettent autour d'une table et tentent de communiquer avec un mort. D'abord, ça rigole et après, un peu moins. Et si ça marchait vraiment? Et si on pouvait vraiment communiquer avec ce que l'on ne voit pas? Et si, une fois devenu adulte, dans un monde de technique et de science, le spiritisme avait de vrais effets, voire même des bienfaits?
Les anciens portent de la nourriture sur les tombes. Est-ce qu'ils croient que les morts se nourrissent et sont encore vivants? Évidemment pas, la nourriture est là, elle pourrit ou elle est prise par les loqueteux, par les miséreux. Et puis d'autre part, il apporte seulement une fois par an. C'est pas assez pour nourrir quelqu'un. Donc, mais en même temps, l'idée d'une demi-vie du mort existe. C'est très compliqué, c'est un mélange. Nous-mêmes mettons des fleurs sur les tombes, ce n'est pas pour que les défunts viennent en respirer le parfum. Néanmoins, il y a dans le corps, dans un corps mort, dans un cadavre, pour parler crûment, quelque chose que nous n'envisageons pas de sang-froid. On a pu croire au contact des reliques au Moyen-Âge. Il suffisait d'être en contact avec le corps d'un saint pour être guéri. Nous avons donc certains objets dans le monde, par exemple les corps morts, qui sont entourés, un phénoménologue décrirait ça bien mieux que moi, de quelque chose d'un peu spécial. Et qu'on exprime comme on peut en disant « oui, il est quand même vivant, oui, il a un pouvoir », c'est des façons approximatives de le dire.
Bonjour Philippe Charlier.
Bonjour.
Vous êtes médecin légiste et anthropologue, vous êtes directeur du département de la recherche au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, le dernier paru est une réédition en poche. Il s'intitule « Autopsie des fantômes, une histoire du surnaturel », c'est aux éditions Taillandet. J'imagine que vous avez reconnu la voix avec laquelle on a ouvert cette émission. Est-ce que vous l'avez reconnu?
Oui, c'est Paul Venn, bien sûr.
Voilà, c'était votre professeur, vous me l'avez dit juste avant l'émission.
Oui, j'ai eu la chance de le croiser à l'École française de Rome et c'était une chance, un plaisir inouï de l'écouter dispenser son savoir.
Alors Paul Venn, qui nous a quittés la semaine dernière, c'était le 29 septembre 2022. C'est une manière de lui rendre hommage, mais aussi d'ouvrir sur le thème de notre émission, à savoir ce contact, cette relation particulière qu'on a avec les morts. Est-ce que vous, quand vous aviez suivi des cours de Paul Venn, vous aviez perçu chez lui cette lucidité sur notre rapport avec les morts?
À l'époque où j'ai connu Paul Venn, j'étais anthropologue et archéologue et je travaillais sur les immenses fouilles des cimetières périurbains à Rome de l'époque romaine impériale. Et justement, on avait discuté ensemble du statut du corps mort et du fait que les morts ont soif. En permanence, ils ont soif, ils ont faim. Il faut les nourrir. Quand Ulysse descend aux enfers, il creuse un trou dans le sol des enfers. Il y verse le sang d'un animal sacrifié. D'abord parce que c'est un rituel, mais en plus pour nourrir et satisfaire cette soif inextinguible des morts. Et sans arrêt, on est obligé de recréer un lien entre les vivants et les morts, même s'il existe une frontière qui est à la fois symbolique et physique entre nos deux mondes. Mais cette frontière, elle est perméable parce que les morts ont besoin de nous et parce que nous, les humains, nous avons besoin des morts. C'est vraiment un échange dans les deux sens. Les morts ont besoin de nos prières pour aller le plus loin possible, repartir sur le chemin d'une autre vie ou d'une annihilation totale, une disparition, une fin en soi. Et puis parfois, eh bien, les humains ont besoin d'un petit coup de pouce des morts pour accélérer leur amélioration morale ou sociale, pour que les choses se passent au mieux, parce que les morts ont une proximité avec les dieux, ont une proximité avec les êtres surnaturels et qu'ils peuvent en effet faciliter, être bienveillants. Mais méfiance, parfois, ils sont malveillants aussi.
C'est là où intervient le spiritisme. Est-ce que le spiritisme, ça désigne précisément, Philippe Charlier, cette relation qu'on entretient avec les morts?
Non, le spiritisme est une partie de cette relation qu'on peut entretenir avec, même pas les morts, mais les esprits, c'est-à-dire une petite partie subtile de l'âme qui sort du corps, soit pendant le sommeil, soit dans des états modifiés de conscience, soit bien sûr beaucoup au moment de la mort. Et cet esprit, eh bien, il peut avoir une envie, mais ça n'est pas obligatoire, d'entretenir encore ce lien avec les humains. Il peut avoir envie de parler, tout simplement, de transmettre un message. Quand Allan Kardec a codifié le spiritisme dans la deuxième moitié du 19e siècle en France et d'ailleurs pour toute l'Europe, il a bien précisé que pour lui, le spiritisme était quasiment comme un troisième évangile, que les morts qui ont vu Dieu, qui sont du côté de la divinité, même si tous les morts ne sont pas fréquentables, il est bien le premier à le dire, eh bien, les morts ont un message à transmettre et par cette accumulation d'anecdotes, de récits, de témoignages fournis par les tables tournantes, par les Ouija, par les vers, par le contact avec les médiums, eh bien, c'est une sorte de troisième évangile qui s'écrit. Ça, je peux vous dire que ça a été relativement peu apprécié par l'Église.
Alors, le spiritisme, c'est donc une manière, une certaine manière parmi d'autres, c'est ça, d'entrer en contact avec ces morts ?
Oui, c'est la façon avec laquelle les esprits entrent en contact avec les humains et les humains avec les esprits. Ça peut se passer soit par des médiums qui sont des objets, une table tournante, un verre posé sur un alphabet, un Ouija avec la goutte, c'est-à-dire ce petit morceau de bois en forme de virgule. Qui va
un poser. Ouija, c'est une table en bois sur laquelle sont inscrits des chiffres.
Une plaque en bois, oui, c'est ça.
Oui, c'est ça, et donc la goutte se déplace.
Et l'alphabet, ainsi que oui, non, et bonjour, au revoir.
Oui.
Et il faut faire attention à cet objet qui peut parfois se retourner contre son propriétaire. Et puis il y a aussi des vers, posés sur un alphabet, c'est la façon la plus simple. Voir des coups dans le mur, un coup pour oui, deux coups pour non, et on interroge l'esprit, et ces coups dans le mur fournissent des réponses assez simples. C'est l'un et l'autre qui peuvent avoir envie de communiquer. Le spiritisme peut soit utiliser ces objets, soit utiliser un autre médium, que sont les médiums humains, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont cette sensibilité très particulière de pouvoir entrer en contact avec les esprits. Et il joue le rôle de médiateur. Et tout le monde n'a pas cette capacité. Allan Kardec, par exemple, était un très mauvais médium.
Vous avez cité Allan Kardec, alors est-ce que vous pouvez nous le présenter quand même ?
Allan Kardec est un homme qui appartient à la moyenne bourgeoisie française, qui est un pédagogue à l'origine. Donc il organise l'éducation, des centres d'éducation, des crèches, la subsistance des enfants et des familles. Et puis au fur et à mesure, il découvre le spiritualisme, c'est-à-dire cette façon anglo-saxonne de pratiquer le spiritisme en lien avec les esprits, qui vient principalement de Nouvelle-Angleterre aux États-Unis et d'Angleterre-Irlande. C'est par là que c'est arrivé en Europe. Lui apprend ça, ça titille vraiment complètement sa sagacité, ça l'interpelle, et il va s'essayer lui-même comme médium. Ça va vraiment pas marcher, c'est vraiment...
Il est nul, il faut avoir donc des capacités.
Il est nul, oui, j'osais pas le dire, mais disons-le franchement, oui. Il est vraiment nullissime comme médium. Il faut avoir des capacités, on a ça dans le sang, tout simplement, ou dans
c'est un talent, un don presque.
C'est un talent, comme présenter une émission de radio, tout le monde n'a pas cette capacité de le faire. Et lui, franchement, vraiment pas. Par contre, c'est un excellent codificateur. On sent que c'est vraiment un esprit organisé. Il aime diffuser le savoir. Il a cette capacité-là, au contraire. Et donc, il va colliger énormément de données venant de tel médium, de tel autre médium. Il va faire une sorte d'évangile, si on peut dire. Et lui, c'est un évangéliste, c'est un apôtre, presque, du spiritisme. Et il va ensuite diffuser complètement ça, soit sous la forme de gros livres, le livre des esprits, le livre des médiums, soit il va le faire sous la forme de tout petits libelles, donc des tout petites brochures de 3 ou 4 pages. Et c'est comme ça que le spiritisme va atteindre toutes les classes sociales, les plus hautes, jusqu'à l'empereur ou l'impératrice, Napoléon, Eugénie, et puis leur cour, et jusque tout en bas de l'échelle sociale, les ouvriers, les mineurs dans les corons du Nord, les ouvriers ou les garçons de café, voilà. Tout le monde, en fait, y trouve un intérêt, soit une extraction sociale le soir quand on a fini le boulot, on ouvre la fenêtre en interrogeant les esprits, on s'évade, soit quand on appartient à la haute bourgeoisie, l'aristocratie ou la cour, eh bien là, on échange avec des personnalités qui ont le même statut que vous, on fait venir Dante, Alighieri, Molière ou Alexandre le Grand.
Mais ça paraît un petit peu, pardonnez-moi Philippe Charlier, un petit peu délirant quand vous en parlez. C'est-à-dire que quand je rentre chez moi, j'ouvre pas la fenêtre pour dialoguer avec les esprits. Quand je racontais en introduction une séance de spiritisme adolescent, c'est peut-être la seule expérience que j'ai du spiritisme. Et j'imagine qu'elle est ratée et j'en garde un souvenir plutôt nul. Effectivement, pour nous, le spiritisme, est-ce que aujourd'hui, à notre époque, ça a autant de pertinence que ça, ou au contraire, ça a pris une autre forme aujourd'hui ? C'est toujours là.
Il y a une vraie résurgence du spiritisme depuis la crise de la Covid-19 parce que nous n'avons pas pu enterrer nos morts de façon décente, nous n'avons pas pu assister à leur agonie, donc les préparer à la mort et nous-mêmes nous préparer à leur disparition. On a tous enterré, enfin tous, j'espère pas tous, mais on a beaucoup d'entre nous ont enterré ou ont eu connaissance de personnes, y compris des gens de notre famille, qui ont été enterrés en notre absence. Et c'est difficile de faire son deuil dans ces circonstances. Et du coup, le spiritisme en aide beaucoup, parce que ça leur permet de créer un lien, fût-il réel ou pas. C'est pas mon problème. Moi, je pourrais pas vous dire si les fantômes ou les esprits existent véritablement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les rituels qui entourent tout ceci. En tout cas, beaucoup y trouvent une satisfaction, parce que par le spiritisme, ou des expériences proches du spiritisme qui incorporent l'usage de médiums, eh bien, un lien se fait avec ces êtres chers qui sont morts, qui ont disparu, qui sont devenus invisible, et avec ça, eh bien, une fenêtre s'ouvre qui permet de les voir un tout petit peu, de leur dire au revoir, de demander pardon, en bref, de commencer son deuil véritablement. Donc, en ce moment, il y a une vraie résurgence, un vrai boom, si on peut dire, du spiritisme et de pratiques semblables.
Et alors, à quoi vous mesurez ce vrai boom? Ça se manifeste comment? C'est-à-dire que ça va être par des recherches internet, des demandes à certains médecins. Comment on fait quand on est en deuil pour commencer justement à faire ce deuil à travers le spiritisme?
Ça se fait auprès de la communauté des médiums, donc des demandes auprès de médiums qui ont pignon sur rue, dont on trouve des publicités, soit sur le pare-brise des voitures dans le nord de Paris, soit dans les pages de Libération ou d'autres quotidiens. Ça se voit également quand on fréquente le Père Lachaise et qu'on va sur le tombeau même d'Allan Kardec ou d'autres grands spirites. Et bien, ces tombeaux-là sont beaucoup plus fréquentés avec la communauté spirite qui se tient présente et qui renseigne beaucoup de passants qui sont en quête de réponses et qui veulent en savoir plus. Et puis, les musées aussi. Moi, j'ai la chance de travailler au musée du Quai Branly Jacques Chirac et je vois de plus en plus de demandes qui émanent de visiteurs de mieux connaître les rituels autour du monde qui établissent un lien entre les vivants et les morts, qu'il s'agisse de rituels en Afrique subsaharienne, dans le monde afro-caribéen, en Asie, y compris chez les Inuits aussi, ou chez les Indiens du Nord de l'Amérique. Cette recherche d'une spiritualité, ouvrez les guillemets, exotique, fermez les guillemets, en tout cas éloigné de nos fondamentaux européens, c'est quelque chose d'extrêmement présent et on essaie de les renseigner au maximum et de leur ouvrir ces, non pas ces possibilités, mais au moins cette richesse culturelle dont ils peuvent éventuellement tirer un usage direct.
Mais ce type de croyance et de pratique a été complètement dévalorisé. C'est-à-dire que quand on parle de médium, de spiritisme, on a tout de suite en tête escroquerie ou délire, comme je l'ai dit. Comment être sûr, en fait, qu'on va pratiquer d'une manière légitime, adéquate, le spiritisme?
Est-ce qu'il y a une façon légitime et adéquate de pratiquer le spiritisme? Je n'ai pas cette réponse. N'attendez pas de moi non plus de dire que tous les gens qui pratiquent ça sont fous. Je ne le pense pas. Je ne le pense vraiment pas. Mais en tout cas, ils sont dans une attente, dans une demande, qui peut être en effet résolue par ce moyen, par cette technique. Il y a des centres qui monopolisent des spécialistes. Je pense à l'Institut de Métapsychique Internationale, par exemple, qui est à Paris. Je pense à d'autres centres de recherche, des communautés spirites un peu partout. Le problème, c'est qu'il y a eu plusieurs âges d'or des fantômes au fur et à mesure de l'histoire de l'humanité, dans l'Antiquité, égyptienne, gréco-romaine, avec beaucoup d'épidémies de fantômes, si on peut dire, dans le Moyen-Âge occidental aussi, où des fantômes, quand on relit les textes, assaillent complètement des monastères, par exemple, ou des couvents. Alors, à l'époque, ils ne sont pas étiquetés forcément fantômes, ils sont considérés comme des démons ou des flammes de feu ou des apparitions surnaturelles. Mais on peut vraiment les caractériser comme
des esprits,
des revenants sur le plan anthropologique. Et puis, il y a un troisième âge d'or, qui est le grand âge d'or auquel vous faites référence, qui est celui du spiritisme du 19e siècle. Le seul problème, c'est qu'à chacun de ces âges d'or, il y a eu à chaque fois des arnaques, des escroqueries, des médiums qui trichaient pour faire apparaître de faux fantômes, ils se déguisaient, ils avaient un truc ou astuce. Il y a eu l'apparition de la photographie spirite, qui est un faux caractérisé dès le départ, une erreur de manipulation avec une double impression impression sur une plaque photographique. Et le photographe s'est dit, tiens, je vais faire de l'argent là-dessus auprès de la communauté spirite qui est extrêmement férue de ces nouvelles technologies et qui est malheureusement extrêmement crédule à cette époque. Donc voilà, c'est le problème, c'est que l'homme est faillible. L'homme est assez souvent crédule et parfois, eh bien, certains esprits, sans faire de jeu de mots, mal intentionnés, en profitent.
Mais c'est tout le problème, Philippe Charlier. Vous parlez de crédulité, mais comme le spiritisme est une croyance, qu'est-ce qui différencie la crédulité de la croyance dans ce cas-là? Vous avez dit, il y a eu des arnaques à chaque époque, à chaque âge d'or du spiritisme. Vous avez dit, parfois, il y a des arnaqueurs qui ont fait apparaître des faux fantômes. Oui. Et qu'est-ce qui différencie un vrai fantôme d'un faux fantôme? Comment je peux le distinguer?
Par la foi, par le credo cette fois-ci, comme le lien avec les morts dans les religions monothéistes par exemple, vous n'avez pas de preuves tangibles, tout se fait sur le pouvoir de la foi, le pouvoir de la croyance totale dans l'apparition et dans l'interprétation. Mais dans l'état de la science n'a rien à voir directement là-dedans. Il y a quand même une universalité dans les croyances des fantômes, dans l'idée que la mort n'est pas une fin et qu'il s'agisse des Egungun, par exemple, au Bénin ou au Nigeria, qu'il s'agisse des Guélédé également dans la même sphère, qu'il s'agisse des zombies en Haïti ou même des Black Indians dans la Louisiane, pour laquelle on a une exposition en ce moment au musée du Quai Branly Jacques Chirac, et même les fantômes, tiens, les Yurei du Japon. Voilà, il est difficile d'ignorer l'existence, en tout cas la croyance dans ces fantômes, qui est absolument universelle. La mort est partout, les morts sont partout, et ils ont envie de parler.
Quelqu'un là. Pour oui frappe un coup, pour non frappe deux coups. Avant de te demander qui tu es, je vais t'adresser une question. Mais d'abord, cette question, la vois-tu dans mes pensées? Veux-tu y répondre? Montagne est ma tombe. Je suis le souffle de Dieu, je monte et je descends. Je veux le ciel et la terre me veut. Les étoiles me tirent par les cheveux et les clous du cercueil me tiennent par les pieds. Les ténèbres me crient « Abba » et les soleils me disent « Debout ». Je suis l'inconsolé de l'horizon. Je suis le veilleur de nuit, l'innombrable tombeau vidant ses yeux dans les crânes vides. Je suis le causeur des mauvais rêves.
Il y a plusieurs manières, plusieurs méthodes pour communiquer avec les esprits, avec les morts. On vient d'en entendre une manière, c'est celle de Victor Hugo. Il a écrit le Livre des Tables. Là, on a entendu un extrait de ce texte interprété par Benjamin Biolay dans le film d'Olivier Assayas, Personal Shopper. Et puis juste avant, on a entendu de la musique qui vous tient particulièrement à cœur, Philippe Charlier, puisqu'il s'agit de la musique du théâtre No. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, si vous passez dans mon bureau l'après-midi, vous risquez d'entendre la même musique. Le théâtre No est un théâtre extrêmement spirituel, extrêmement mystique du Japon traditionnel. Et c'est, à mon sens, quelque chose qui ressemble le plus au théâtre antique dionysiaque par son lien direct avec la divinité. C'est un fantôme qui apparaît sur scène. La musique qu'on a entendue avec ses bruits gutturaux, c'est l'arrivée du fantôme sur la scène, le long d'un long couloir, une longue coursive rythmée par trois cyprès. Et ce fantôme marche de façon extrêmement impassible, tout doucement, un pas qu'on dirait presque de sénateur. Ses vêtements sont complètement durcis par l'amidon et on ne voit pas ses pieds bouger. On a l'impression qu'il flotte littéralement sur le parquet verni. Il a une démarche de fantôme. Sur le visage de l'acteur se trouve un masque généralement blanc, livide. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est ceux de Zoona, la jeune femme, mais qu'on appelle la vieille femme, parce qu'elle en a vu tellement, et elle est vieille, jeune, elle est morte jeune, et par la répétition de sa sortie théâtrale, l'histoire de sa mort dramatique va être répétée sans cesse, et on va essayer de laver au fur et à mesure l'affront qui lui a été fait d'une vie écourtée. On va essayer d'expliquer ceci au public qui vient voir, comprendre et prier de façon inconsciente pour le repos de son âme et pour que son fantôme retourne ensuite dans le cycle des réincarnations. On est vraiment à la frontière entre du bouddhisme, du shinto, et par la répétition des pièces de théâtre, par la visibilité successive de ce fantôme, eh bien celui-ci va gagner au fur et à mesure la paix. On va croiser des moines, on va croiser des monstres, on va croiser des visiteurs, des voyageurs, et c'est vraiment un spectacle qui est extrêmement dense, extrêmement long, extrêmement codifié, rien n'est au hasard. C'est à la main de 5 ou 6 familles, pas plus, qui tiennent les rôles de génération en génération. Pour moi, c'est une des manifestations, une des visibilités les plus éclatantes, les plus extraordinaires du monde surnaturel.
Et à propos des tables tournantes du livre que Hugo a écrit, jusqu'où en fait il y a une continuité en fait, de ces méthodes de spiritisme. Parce que d'un côté, on a de l'art et de l'autre côté, on a véritablement une séance de spiritisme.
Alors, il faut imaginer que Hugo s'emmerde comme un roi mort, comme un rat mort, pardon.
comme un roi mort, oui, aussi, peut-être.
C'est un lapsus à analyser. Comme un rat mort dans les îles anglo-normandes. Il a perdu sa fille également il y a quelques années. Il n'a toujours pas fait le deuil de celle-ci. Et une amie rencontrée là lui propose de faire du spiritisme. Il plonge littéralement dedans. Ce sont des séances qui durent extrêmement longtemps. C'est extrêmement fastidieux. Chaque lettre est dictée par le positionnement d'un verre ou d'un doigt sur cet alphabet. Ça dure des heures, des nuits blanches entières sont consacrées à ça. Et c'est vrai que on voit les différents personnages qui apparaissent au fur et à mesure. Des poésies qui sont dictées par des auteurs Molière, Dante et plein d'autres.
Donc il entre en communication avec ses esprits.
Il entre en communication avec ses esprits, sauf que c'est du Victor Hugo en fait. Les vers qui sortent sont vraiment du Victor Hugo. C'est en réalité, je pense, plus une introspection qu'autre chose. Mais quand on lit ce livre des tables, dont le manuscrit est conservé à la Bibliothèque nationale de France, plusieurs choses importantes. La première, c'est un jour, il demande au guéridon, la mort est présente, la mort apparaît. Quand même, qui es-tu ? Je suis la mort. On imagine l'état d'esprit dans lequel tout le monde devait être autour de ce guéridon. Enfin, moi, quand j'ai lu le livre, qui es-tu ? Je tourne la page. La mort. Ah ouais, d'accord. Voilà. Vous lisez ça à 3h du matin, ça vous met dans l'ambiance. Et surtout, il va lui demander à la mort de dessiner son portrait. Et là, il va mettre un crayon sur un des pieds du guéridon et le guéridon va bouger et va dessiner le visage de la mort. C'est un visage féminin, comme le vôtre, mais au lieu des yeux, ce sont 2 grandes orbites noires et une bouche qui est grimaçante. Je peux vous dire que ce dessin, je ne l'oublierai absolument jamais. C'est vraiment le visage de la mort, qu'il soit vrai ou faux. C'est en tout cas la personnalisation, au moins pour Victor Hugo, sinon pour l'assemblée des spirites qui étaient autour de lui, dont un a fini par devenir fou à force de faire ses séances. Mmh. C'est la visibilité de l'autre monde.
Et entre le théâtre No qui figure des esprits et Victor Hugo qui figure aussi la mort, plus que les esprits en fait, véritablement l'esprit, c'est-à-dire la mort, quelle continuité on a en fait ? Est-ce qu'on peut parler d'un seul spiritisme ?
Je ne sais pas si c'est un seul spiritisme, mais c'est un chemin buissonnant entre le monde des morts et le monde des vivants. Et ce chemin, il peut prendre des aspects divers. Le théâtre, l'écriture, le dessin, passer par des médiums. On a l'impression que l'un et l'autre ne peuvent pas se passer
d'un intermédiaire.
D'un intermédiaire où, en fait, entre le monde des morts et le monde des vivants, il y a d'innombrables fenêtres et d'innombrables portes. Et vous pouvez employer ou utiliser des moyens différents d'un jour à l'autre. Le théâtre, la sortie d'un masque, par exemple, en Afrique subsaharienne, la fréquentation d'un cimetière dans le vaudou haïtien. Vous pouvez utiliser le carnaval ou Mardi Gras en Louisiane avec les Black Indians. Vous pouvez également utiliser les rêves dans certaines communautés, qu'elles soient aborigènes ou inuites. Vous pouvez utiliser également les chamans en Sibérie. Voilà. Les moyens sont multiples et on a vraiment l'impression que tous les chemins
mènent à la mort.
Mènent à la mort, oui. Tous les chemins mènent à la mort.
Est-ce qu'il y a forcément besoin, vous l'avez dit, on a forcément besoin de médium, mais est-ce qu'il faut bien le chercher ? C'est-à-dire, est-ce que...
Le médium étant soit un objet, soit un individu humain, oui.
Est-ce qu'il faut forcément vouloir entrer en communication avec un esprit pour que celui-ci communique avec nous ?
Ah non, l'esprit peut très bien s'imposer à vous. Dans le vaudou béninois, par exemple, ou haïtien, vous pouvez très bien être, ou dans le candomblé également du Brésil, ou la Santeria à Cuba, et même le quimbois dans les Grandes Antilles, vous pouvez très bien être monté par un esprit. Cet esprit pouvant être...
On dit monté, on ne dit pas possédé.
Et non, on dit monté, comme si vous étiez un cheval, et comme si l'esprit était le cavalier. Et donc vous êtes monté par l'esprit, vous êtes chevauché par l'esprit. Par exemple, au Nigeria, ce sont les orishas, qui vous montent, qui vous dominent, qui vous font changer complètement d'esprit, avec cette difficulté de dire si l'orisha ou si l'esprit qui vous monte est soit un mort divinisé, parce qu'il est important, c'est un ancien chef, un ancien prêtre, une personnalité importante de la pyramide sociale, ou si c'est déjà en soi un véritable dieu, entre guillemets. Shango, par exemple, dieu du tonnerre et de la foudre et du ciel.
Vous avez dit tout à l'heure, Philippe Charlet, qu'il fallait avoir du talent, que n'importe qui n'était pas médium. Mais j'ai l'impression quand même que ça peut tomber sur tout le monde, que quiconque veut pouvoir communiquer avec un esprit peut le faire, qu'il y a une forme d'exercice en fait, qu'il faut aussi avoir une certaine disposition de l'esprit, c'est-à-dire ne pas avoir un esprit trop cartésien comme on le dit, accepter en fait des zones d'incompréhension, vouloir aller voir du côté de l'invisible, ne pas vouloir tout expliquer, donc il faut avoir une prédisposition mais aussi peut-être un certain nombre d'exercices spirituels à suivre.
Vous êtes très Ignace de Loyola en disant ça. Je vais vous raconter une expérience que j'ai faite quand j'étais en Islande et que je travaillais sur ce monde parallèle en Islande. Je voyais une jeune femme qui était fille au père et elle accompagnait une fois une petite fille qui voulait aller à la messe et en tout cas aller dans une église se recueillir pour ses grands-parents. Elle rentre dans l'église avec cette petite fille et elle dit à la petite fille, bah, vas-y, assieds-toi sur un banc. Et la petite fille dit, mais non, je ne peux pas, tous les bancs sont occupés et l'église était vide. Et en fait, c'était des fantômes qui étaient tous là, présents. Du moins, c'est l'interprétation qui en a été faite. En fait, les enfants ont, en Islande, cette capacité, cette perméabilité complète qu'ils perdent au fur et à mesure de leur adolescence, puis de leur croissance. Et ça, on le retrouve dans beaucoup d'autres civilisations. Les enfants sont... C'est presque rousseauiste ce que je vous dis, sont pervertis par la société, on leur rajoute des calques, peut-être du cartésianisme, qui fait qu'ensuite ils ne sont plus aptes à ouvrir cette porte ou à voir de l'autre côté de la fenêtre.
Donc moi par exemple, j'ai perdu complètement ma capacité à aller voir de l'autre côté de la fenêtre.
Sauf si vous êtes un médium, sauf si vous êtes initié à une société secrète. Dans le vaudou béninois par exemple, vous pouvez rentrer dans la société secrète des Egungun et au fur et à mesure de votre montée en grade, peut-être aurez-vous un jour la chance de revêtir un costume de lumière qui sera pénétré par l'esprit d'un mort, ce qu'on appelle un revenant. Et à ce moment-là, vous pourrez établir un pont, votre voix changera, elle sera comme ça, c'est-à-dire une voix nasillarde et gutturale. C'est la voix des morts.
Et qu'est-ce qui nous... Parce que je suis sceptique. Donc,
Vous avez totalement raison de l'être.
Voilà, qu'est-ce qui fait aussi que voilà cet apprentissage, cet exercice, cette disposition de l'esprit, qu'est-ce qui fait que à la fin, par exemple, de mon apprentissage chez les Gungun, par exemple, en fait, je ne vais pas juste intérioriser un rôle à jouer.
Mais c'est tout à fait possible.
Ouais.
C'est tout à fait possible. Il faut remettre tout ceci dans son contexte. Les Egungun, on est en Afrique subsaharienne, on est au Bénin, au Nigeria et un petit peu au Togo, et on est dans une un endroit où le vaudou est extrêmement prégnant, avec divers groupes ethniques, et on est à la confrontation avec le christianisme, qu'il soit protestant ou qu'il soit catholique romain, avec l'islam qui est également présent. Et rien n'empêche quelqu'un d'être complètement cartésien, prof de mathématiques ou de physique quantique, c'est à la mode en ce moment. Et puis dans le même temps, eh bien le soir, il revêt son costume de Gungun. En fait, chacun de nous a plusieurs personnalités. Et moi qui vous parle, aussi scientifique, pragmatique et cartésien que je puisse être.
Oui, parce que vous, je rappelle quand même que vous êtes de formation de médecin.
Ah oui, oui. Et puis je reste totalement cartésien. Moi, je c'est pas les fantômes qui m'intéressent au sens de est-ce qu'ils existent ou pas. Je me suis jamais posé la question et je ne cherche même pas à y répondre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi les gens ont envie d'y croire. À qui servent, à qui profitent les fantômes? C'est pour moi la question clé.
Mais pourtant, vous auriez pu être psychologue, psychanalyste, psychiatre pour essayer de savoir pourquoi il y a un besoin individuel de fantômes.
C'est pas assez, pour moi, j'espère ne pas heurter la sensibilité de ces spécialistes, mais pour moi, c'est pas assez matérialiste. La psychologie, la psychiatrie, moi j'avais besoin de toucher les corps. C'est pour ça que j'ai choisi la médecine légale comme spécialité, pour l'utiliser ensuite pour l'archéologie et l'anthropologie. Moi, je suis extrêmement matérialiste, sans la réalité des objets palpables. Moi, mon principal outil de travail, c'est la main. Sans ma main, je suis perdu. Et donc, du coup, sur le terrain, j'ai besoin de palper, j'ai besoin d'entendre, j'ai besoin de tout toucher. Et quand je vais au Bénin, assez vite, on me dit « Mais Philippe, arrête de poser des questions. Arrête de poser des questions. » Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai été initié au vaudou, parce que je posais tellement de questions qu'ils m'ont dit « Mais Philippe, tu dois maintenant faire l'expérience de toutes les réponses qu'on t'a apportées. Et ça t'évitera de poser d'autres questions, parce qu'ensuite, tu auras la réponse en toi. » Et c'est comme ça que j'ai été initié.
Venir se recueillir sur la sépulture d'Allan Kardec et la pratique du spiritisme, il y a un fossé. Pratiquez-vous le spiritisme?
Je crois.
Entrez-vous en communication avec des esprits?
Des bons esprits, hein, pas des mauvais.
Et vous préférez venir sur Allan Kardec plutôt que d'aller dans un temple ou dans une église?
C'est pareil.
C'est la même chose.
C'est la même chose.
Mais là, je sais que dans une église, il n'est pas. Il faut quand même venir où est-ce qu'il est enterré. C'est mieux.
De toute façon, le simple fait même de toucher la statue vous fait ressentir quelque chose d'autre.
Ah oui. Alors, c'est-à-dire quand vous mettez la main sur,
absolument.
Sur l'épaule de Kardec, Ah oui, vous ressentez quelque chose.
On ressent un flux qui vous parcourt de la tête aux pieds. Alors donc je crois.
Oui. Et entrez-vous en communication avec des esprits?
Non, pas pour l'instant.
C'était le 28 octobre 1987 sur les ondes de France Culture dans l'émission mythique Les Nuits Magnétiques. On entendait un certain nombre, on pourrait peut-être dire, d'adeptes ou je ne sais pas, ou de disciples d'Allan Kardec dont vous nous avez parlé, Philippe Chardet, qui vont lui rendre hommage et qui disent cette phrase très intéressante qui est: on pourrait aller dans une église ou lui rendre hommage sur sa tombe au Père Lachaise, ce serait pareil. C'est comme si en fait il n'y avait pas de différence entre une croyance spirit et une croyance religieuse. Est-ce que c'est véritablement le cas ?
C'est probablement le cas pour une partie de la communauté spirit pour laquelle le spiritisme est devenu l'équivalent d'une religion. Ce que le spiritisme ne voulait absolument pas être à l'époque d'Allan Kardec et ce que le courant, on va dire, officiel du spiritisme ne souhaite toujours pas. Le spiritisme est un moyen complémentaire d'entrer en contact avec les morts et que les morts entrent en contact avec nous. Point barre, mais ça n'a aucune vocation, même si j'ai utilisé le titre d'apôtre tout à l'heure pour Allan Kardec, c'est une métaphore bien entendu, il ne se considère pas du tout comme un apôtre au sens christique du terme. Néanmoins, au fur et à mesure, le spiritisme a pris une importance folle, de telle sorte que ça a fini pour certains par devenir une véritable religion avec des rituels quasiment permanents, une façon d'organiser l'intégralité de la journée, nuit y comprise, et même des rituels presque de mariage et de funérailles. Et ça, l'Église l'a très mal pris, l'Église catholique romaine. Elle a mis les ouvrages d'Allan Kardec à l'index, un auto-da-fé, donc le fait de brûler ces ouvrages a été fait sur le parvis de la cathédrale de Barcelone. Donc là, il y a vraiment une mise à l'écart de la communauté spirite par le catholicisme romain, même si dans mon enquête j'ai rencontré quelques curés, notamment dans le 5e arrondissement de Paris, qui pratiquent le spiritisme sans aucun problème le soir quand ils...
De manière tout à fait assumée, ou vous voulez dire...
De façon assumée, mais pas officielle.
Voilà, c'est ça. De manière clandestine.
De façon clandestine et sous anonymat, ils disent « Ah oui, moi, aucun problème pour faire tourner les tables. Une fois que j'ai fermé à clé mon église, je peux y aller sans souci. »
Mais donc, il y a un côté un petit peu sulfureux dans cette figure d'Allan Kardec, parce que les scientifiques, j'imagine, le détestent, sauf vous.
Moi, je déteste personne.
les religieux le détestent. Donc, il y a quand même une sorte de... Il cristallise tout le mal qu'on peut faire porter au spiritisme.
Mais c'est surtout qu'il n'y a pas une communauté spirite, il y a vraiment énormément de courants. Et la communauté spirite, qu'on pourrait presque dire orthodoxe, celle qui est la plus proche de la pensée d'Allan Kardec, a mis au verso du dolmen d'Allan Kardec, donc son monument funéraire au Père Lachaise, un petit papier sous un blister en plastique disant que c'est de la superstition de venir toucher l'épaule gauche d'Allan Kardec en regardant une certaine direction, etc. Que non, on ne peut pas sentir de fluide à cet endroit-là parce que c'est une statue, ça n'a rien à voir avec le spiritisme, et qui condamne complètement toutes ces pratiques qu'elle appelle littéralement dans ce papier que j'invite les visiteurs à lire, et qui est reproduite dans l'ouvrage, de la superstition, de la sorcellerie, de la magie, qui n'a rien à voir avec le spiritisme. Donc rien qu'au sein du courant spirit, vous avez énormément de variations, et normalement, il ne devrait rien se passer de particulier sur le tombeau d'Allan Kardec, qui ne correspond à rien de particulier sur le plan spirituel.
Mais ça, c'est vraiment intéressant, Philippe Charlier, parce que ça veut dire que le spiritisme tient aussi à une forme de méthode, en fait, on pourrait dire, je sais pas, de légitimité. Elle a des codes, des règles qu'elle doit suivre. Elle ne doit pas être mélangée.
Galvaudée. Elle ne doit pas être galvaudée ou mélangée à d'autres courants plus ou moins ésotériques. Rien n'empêche certains de pratiquer, je sais pas, des rosicruciens, donc un ordre ésotérique qui pratique en même temps le spiritisme ou autre. Le problème, c'est que le spiritisme est une technique qui a été assez récupérées par d'autres courants, parfois religieux. Juste un exemple, le caudaïsme.
Alors expliquez-nous ce que c'est. Oui.
Le caudaïsme est une religion absolument fascinante qui est née au Vietnam au tout début du XXe siècle. Un administratif qui était d'origine cochin-chinoise et qui a eu la révélation un jour en pratiquant le spiritisme dans le sud de ce qui est maintenant le Vietnam, à Saïgon, Ho Chi Minh-ville. Et là, il entre en contact avec une divinité qui se présente à lui comme étant A-A-A, le dieu primordial. Et il va lui dicter au fur et à mesure, il va lui dire « Écoute, je suis le véritable dieu, voici ma philosophie, voici la véritable religion que je te révèle. » Et donc, c'est ainsi que naît le caudaïsme. Et par cette suite, cette succession de soirées spirites, de tables tournantes, eh bien, une religion va naître au fur et à mesure, qui est un syncrétisme entre du bouddhisme, entre du catholicisme, un petit peu d'islam. Et puis, certaines figures historiques vont se retrouver là, notamment Victor Hugo, notamment Jeanne d'Arc, et puis Sun Yat-sen également. Enfin voilà, ça va incorporer au fur et à mesure de grands personnages historiques pour cette sorte de
convergence des croyances.
Oui, de mélange, de syncrétisme assez savoureux, extrêmement dense en termes philosophiques et qui est extrêmement présent aussi dans le sud du Vietnam, avec deux églises d'ailleurs, une dans le sud de la France, dans le Gard, et une autre à Maison-Alfort, en banlieue parisienne.
Et puis il y a d'autres courants aussi dont on entend parler, par exemple la théosophie.
Oui.
Alors la théosophie, c'est une science qui est dérivée de l'ésotérisme, c'est ça qui est quand même vraiment disqualifié par les scientifiques, par les philosophes aussi, parce qu'il y a quand même la prétention à donner une certaine compréhension du monde. C'est donc la société théosophique a été créée en 1875 par Elena Petrovna Blavatsky. En quoi la théosophie est-elle différente du spiritisme ?
La théosophie, c'est la rencontre de la spiritualité occidentale et de la spiritualité extrême-orientale et orientale d'ailleurs en général. Et en fait, ce mélange des deux est on va dire l'acculturation et l'accès à une connaissance supérieure et primordiale chez les fondateurs de cette religion, ou en tout cas courant philosophique, se faisait par l'intermédiaire du spiritisme. Donc au début en fait de cette nouvelle religion, de cette synthèse, si on peut dire, entre l'Est et l'Ouest, sur le plan intellectuel, il y a eu l'usage du spiritisme. Dorénavant, le spiritisme n'est plus utilisé. C'était vraiment chez les maîtres fondateurs, Madame Blavatsky par exemple, et un colonel anglais avec qui elle a pu collaborer, qu'il y a eu cet usage du spiritisme. Dorénavant, c'est abandonné. Vous voyez, à chaque fois, le spiritisme est un moyen utilisé pour accéder à une connaissance prétendument cachée, et c'est un moyen de le révéler. Alors ça devient du coup des religions révélées, comme les religions du livre, mais par l'intermédiaire de tables tournantes. Et l'apôtre, entre guillemets, Madame Blavatsky, si on peut dire, pour la théosophie, et encore c'est très grossier comme façon de faire ou de dire, ce fonctionnaire de Cochinchine pour le caudaïsme, il joue le rôle à chaque fois d'intermédiaire entre la divinité, ou au moins la gnose, la connaissance, le verbe parfait, et les textes qui vont être transmis ensuite aux humains.
Alors, dernière distinction, Philippe Charlier, celle entre le spiritisme et le spiritualisme.
Ah, le spiritualisme est... Honnêtement, la différence est relativement faible. Le spiritualisme, c'est cette façon d'établir le contact entre les vivants et les esprits, principalement dans le monde anglo-saxon. Et c'est teinté de religion anglicane, de protestantisme. On fait encore peu la différence entre l'un et l'autre. C'est médié par des sociétés d'entraide anglicane, des Quakers également, qui participent beaucoup à ces courants. Et puis, quand ça traverse l'Atlantique, que ça arrive déjà en Angleterre et en Irlande, et surtout en France, par l'intermédiaire d'Anne Kardec, on parle dorénavant de spiritisme. C'est-à-dire qu'on se détache d'un filtre qui est celui du protestantisme luthérien ou calviniste, et on devient plus universel. C'est plus une vision de vraiment des esprits, quels qu'ils soient.
Est-ce que dans le spiritisme, on a un corpus comme dans la théosophie ou le spiritualisme qui prétend expliquer le monde? Ou est-ce que c'est vraiment plutôt des livres, des ouvrages de méthodes pour des séances de spiritisme, pour exercer le spiritisme? Est-ce que il y a juste une méthode ou est-ce qu'il y a vraiment une philosophie en fait du spiritisme?
Quand Allan Kardec écrit le livre des médiums, il donne le modus operandi, la façon de faire. Quand il écrit le livre des esprits, en revanche, là, il donne une synthèse de la façon avec laquelle les esprits voient la réalité du monde. Le monde des vivants et le monde des morts. Et donc, ça pourrait être, oui, ce livre révélé, cette véritable organisation de l'univers dont vous parlez. Mais ça, c'est pour les cardéciens purs et durs, sachant que le cardécisme est une religion quasiment d'État au Brésil, où c'est un des pays qui pratique le plus le spiritisme, y compris actuellement à l'ère Bolsonaro.
Et en France, le cardécisme, c'est ça?
Oui.
Est-ce que c'est considéré comme une forme de croyance ou est-ce que c'est rangé dans les sectes, par exemple? Est-ce que c'est reconnu, en fait, comme une croyance?
Ça n'est pas reconnu comme une croyance, ça n'est pas reconnu comme une religion. Il y a quelques signalements de certains groupes spirites à la Miviludes, en l'occurrence, l'ancien nom, mais il n'y a pas eu de suivi particulier là-dessus.
Ça donne rien.
Ça ne donne rien. Non. Il n'y a pas d'organisation propre ou de danger qui a été rapporté.
Le problème de la médiumnité par instrument, c'est que comme on passe par la technique, la technologie, on perd énormément de temps à faire les réglages. On essaie de jongler sur des plages qui sont totalement absentes de radio, soit française, soit étrangère. Je pars du principe quand une voix se manifeste et qu'il n'y a pas de radio aux alentours, c'est déjà un peu curieux. Surtout quand elle parle en français et qu'elle donne des informations sur les gens qui nous demandent justement les contacts. Je m'appelle Marc, j'ai 37 ans, je pratique la communication avec les morts par l'intermédiaire de la radio et je fais ça depuis 2012. On va écouter un enregistrement qui concerne Guy qui a répondu un magnifique oui. La personne en question a identifié la voix comme étant celle de son père. Voilà. Claire et nette. Là, j'en ai eu deux autres, mais j'ai pas encore d'identification.
Oui, je surveille.
Oui, je surveille. Et
vous m'entendez, ma chère?
Là, on a un beau oui. Je vais vous le refaire écouter.
Oui.
On entend bien la radio derrière. Hein.
Vous m'entendez, ma chère?
Alors moi, cet extrait me fait froid dans le dos, Philippe Charlier. C'est un extrait du documentaire de Philippe Baudouin. Ça s'appelle Envoyé spectral. C'était sur Arte Radio le 10 septembre 2014. Et on entend un moyen de communiquer avec les esprits qui est un moyen technique. Alors là, c'est la radio. On pourrait en évoquer d'autres, comme par exemple aussi la photographie, il y a eu. Mais alors là, dans ce cas de la radio, quand même le fait d'entendre ce « oui », et répéter à quelque chose d'assez, vertigineux.
C'est le rêve d'Edison que Philippe Baudouin a
réalisé.
Thomas Edison, le scientifique, mais également le
créateur du téléphone,
l'inventeur du téléphone. Et féru de fantômes également. Il voulait absolument créer une machine qui permettrait d'enregistrer le son des morts depuis l'outre-tombe. C'est d'ailleurs Philippe Baudouin qui a inventé le nom de cette machine, le nécrophone. Et ce que vous avez entendu ici, oui, c'est en effet un usage des ondes radio qui pourrait être un moyen pour certains, pour les morts, de s'exprimer, comme la photographie, comme le cinéma également, et comme même pour certains, le chant des oiseaux. Pour certains, le chant des oiseaux n'est pas un chant d'oiseaux simplement, mais c'est la voix des morts qui s'exprime de cette façon. En fait, on est dans une période, la période scientifique et l'exploitation scientifique du spiritisme, que ce soit en France ou en Extrême-Orient ou en Amérique, où on considère que l'avancée des sciences doit permettre de rendre visible le monde invisible. Et donc, tout ce territoire, cette terra incognita jusqu'à présent qui s'appelait la mort et l'autre monde, va être envahi par les scientifiques. On va utiliser les ondes radio, les rayons X, on va utiliser la photographie.
Et vous le savez bien en plus en tant que médecin légiste.
Ah oui, les rayons X, nous on utilise. Et puis l'invisible, on le révèle par l'autopsie ou par l'usage de la radiographie ou du scanner ou de l'IRM. Et un peu tout devient visible. Et, les infrarouges également, la mesure de la température, donc toutes les sciences, par un opportunisme systématique, vont rentrer dans cette brèche qui est celle du monde des morts et du monde des esprits. Avec, eh bien, parfois, des interprétations qui... c'est comme la beauté est dans l'œil de celui qui regarde, eh bien, l'interprétation est dans l'oreille de celui qui écoute et qui entend.
Et vous en pensez quoi de cette invasion des sciences, voire du scientisme, dans ce domaine de l'invisible ? Est-ce que c'est génial parce que c'est un nouveau territoire à explorer et à rationaliser et ça va éviter les arnaques et les escroqueries ? Ou au contraire, vous trouvez qu'il y a une perte un petit peu fantasmagorique, littéraire, de l'invisible ?
Là, vous êtes en train de demander si je suis un romantique ou un scientifique.
Vous êtes les deux, hein ?
Je suis les deux. En l'occurrence, plaçons-nous non pas dans mon avis qui compte pas, mais plutôt dans celui de la communauté spirit en l'occurrence, à l'époque d'Alan Kardec et surtout après sa mort. On est donc à la fin du 19e, début du 20e siècle. À ce moment-là, Alan Kardec ne voulait absolument pas entendre parler de photographie spirit. Il ne voulait absolument pas parler de l'utilisation des sciences pour le spiritisme. Pour lui, c'était un danger. Et je pense qu'il avait compris que, par la faiblesse humaine, eh bien, l'outil scientifique serait utilisé à mauvais escient et qu'il y aurait déjà des tricheurs à cette période-là. Et ses successeurs à l'Institut, dans la Société Spirit, et puis ensuite à l'Institut de Métapsychique International, quand Richet va participer à sa création plusieurs dizaines d'années plus tard, eh bien là, la science va devenir un des outils des spirites, mais également de toute la communauté, de ceux qui entretiennent un rapport avec les esprits, les revenants et les fantômes, pour essayer de prouver que ça n'est pas une invention et que c'est une réalité. Manque de chance, beaucoup d'enregistrements, beaucoup de données, mais malheureusement, très peu exploitable sur le plan scientifique pur et dur. Et donc du coup, voilà, c'est un peu une chasse impossible à un animal impossible. C'est comme Sylvain Tesson qui cherche la panthère blanche de l'Himalaya. On ne la trouve pas. On la cherche, on voit quelque chose, mais on n'est absolument pas certain que ça soit la réalité physique. C'est la même chose. Beaucoup d'enquêtes scientifiques pour malheureusement un résultat infinitésimal.
Donc, ce qui est...
Tout est dans l'interprétation, hein. Comme toujours dans un fait scientifique, tout est dans l'interprétation, réalité et le caractère reproductif. Et là, bien peu de ces observations sont reproductibles.
Donc ça veut dire que même la science, finalement, échoue en partie à rendre cet invisible.
Jusqu'à présent, la science échoue et on est toujours dans un système de croyance. Mais après tout... Pourquoi essayer de tout expliquer ? D'abord, être cartésien, c'est aussi accepter les limites de fonctionnement de son cerveau et des outils scientifiques qui sont en perpétuelle amélioration. Donc, il faut peut-être attendre un petit peu plus tard pour mieux comprendre. Et puis également, rien ne nous empêche de rêver et surtout de croire. Voilà. Le plus important, c'est savoir si ce à quoi on croit est vrai ou être heureux de croire ce qu'on croit.
En 1959 est paru ce livre du biologiste et historien des sciences Humbert Nergal, s'appelle « Les sciences occultes ne sont pas des sciences ». C'était véritablement une condamnation du spiritisme par les sciences, par les scientifiques. Est-ce que il faut pas réhabiliter cette idée d'occulte ? On parle d'invisible, les sciences occultes, c'est littéralement ça.
C'est littéralement ça. En fait, ce qui énervait beaucoup ce savant, c'est que certains savants bien établi, Pierre et Marie Curie par exemple, Flammarion, Camille Flammarion.
Mais on en a pas parlé parce que Camille Flammarion, il faut le dire, lui c'est un photographe des morts, c'est ça ?
C'est surtout un astronome qui lui observe énormément les étoiles, qui observe Mars, qui est l'auteur de l'astronomie populaire. Donc c'est un savant établi et remarqué, mais en parallèle, il organise chez lui dans son château en banlieue parisienne des soirées spirites. Et donc il est vraiment à double facette, il est scientifique scientifique la journée et il est, mais il s'estime toujours scientifique, lui, quand il fait ses soirées spirites dans sa maison ou son jardin ou sous son toit. Et donc, c'est cette double facette des scientifiques qui énervait prodigieusement cet auteur des années 50. Et il a fait une somme de toutes les démonstrations pseudo-scientifiques, c'est son terme, accumulées depuis des années en les démontant les unes après les autres. Donc, c'est un véritable brûlot anti-spiritisme, mais aussi anti-surnaturel.
Et vous, et on va finir là-dessus, ce sera ma dernière question, Philippe Charlier, comment vous arrivez à défendre, avec tous les écueils et les dérives que ça peut comporter, l'idée d'un besoin de spiritisme et plus globalement d'une science occulte, d'occultisme ?
Alors, vous avez bien compris que moi, je ne prends pas parti dans la réalité ou la...
Je sais, j'essaie de vous pousser à le faire, mais j'y arrive pas.
Vous n'y arriverez pas, parce que je m'y refuse et parce que surtout, je n'ai pas d'avis sur la question. Non, en revanche... La chose à laquelle je peux vous répondre, c'est que nous avons tous ce besoin de combler un manque, de combler une absence. La nature a horreur du vide et nous, humains, nous avons horreur de l'absence de connaissances. Et à chaque fois, les rituels sont là pour essayer d'organiser un chaos qui est présent. La disparition d'un individu est un scandale, est un chaos. Les rituels sont là pour essayer de combler cette absence, qu'il s'agisse de rituels funéraires ou qu'il s'agisse de spiritisme, d'une sortie de masque Egungun, de la création de zombies ou une représentation théâtrale d'une eau. Pour moi, il y a une continuité, il y a une chaîne continue des vivants et des morts avec différents moyens d'expression. Le spiritisme en est un. Et rien que pour ça, il a donc une véritable fonction sociale, comme la messe des morts du catholicisme romain.
Merci beaucoup Philippe Charlier. Alors de vous, on peut lire Autopsie des fantômes, une histoire du surnaturel. Ça vient d'être réédité en poche, c'est aux éditions Taillandier. On peut aussi lire, j'aime beaucoup le titre, Comment faire l'amour avec un fantôme, anthropologie de l'invisible, c'est paru aux éditions du Cerf, et également aux éditions du Cerf Rituel. Et puis on peut aussi signaler l'exposition au musée du Quai Branly Jacques Chirac, Black Indian, c'est ça?
Oui, exactement, sur l'extraordinaire parcours des Africains américains de la Nouvelle-Orléans. Et c'est une démonstration éclatante des sorties des esprits, des dieux dans ces mascarades de Mardi Gras.
Merci beaucoup Philippe Charlier.
Thank you.
Et merci à l'équipe de Sans oser le demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troiano, Cyril Marchand, Laure Dallest, réalisation Lise Combe, prise de son Lucas Finet. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram, bien sûr sur le site de France Culture à la page de Sans oser le demander ou encore sur l'application Radio France.